Frères et sœurs, aimez-vous les reproches? Aimons-nous les reproches? Comment vivons-nous ces moments où quelqu'un vient nous trouver pour nous dire « Telle chose que tu as faite, ça ne va pas bien. Il y a un défaut, il y a une erreur. » Généralement, nous n'aimons pas beaucoup les reproches ou les critiques. Mais essayons de le comprendre, essayons de nous pencher un peu dessus, parce que l'évangile de ce jour nous parle d'un jugement et Jean-Baptiste y formule une sévère critique. Vous avez entendu la façon dont il parle aux pharisiens et aux sadducéens, engeance de vipère, fils de vipère, c'est assez salé comme appellation. Les critiques, nous les craignons souvent, parce que instinctivement, nous les assimilons à un « tu as fait une erreur ?» Mais alors, tu n'es pas aimable, tu ne mérites plus d'être parmi nous. Et le ton que l'on utilise contre moi provoque parfois une inquiétude. Est-ce que j'ai encore le droit de vivre si je ne suis pas parfait? Ton travail porte un défaut, tu es le maillon faible, nous nous porterions mieux sans toi, disparais. Celui qui nous fait une critique ne dit pas forcément ces paroles, mais il y a quelque chose en nous qui les comprend comme cela. Gronder, ça évoque le grondement du tonnerre, la foudre est pas loin. Si une critique est traduite instinctivement, ou du moins associée à un « tu n'as pas le droit d'exister », ben on comprend qu'on les redoute plus qu'on ne les apprécie. Et cette réaction de crainte, cette réaction de mal à l'aise face à la critique, a trois origines en particulier. La première origine, c'est que nous portons les séquelles de mauvais juges ou de mauvais jugements dont nous avons eu l'expérience. Un jugement porté contre nous a été erroné, il n'a pas tenu compte de tous les éléments, de toutes les circonstances, ou bien peut-être celui qui était en position de juger avait quelque chose contre moi, qui a primé sur les faits, il était en faveur du parti d'un autre, il était partial. Une réaction face à la critique qui vient des, on va dire, blessures de mauvais jugements ou de mauvais juges auxquels on a été confronté. La deuxième origine, c'est la séquelle de notre paresse. Pourquoi ? Parce que s'il y a quelque chose à corriger, il va falloir se remettre au travail et c'est fatigant. Pour ça, je pensais en avoir fini. Ça y est, c'était bon. Et voilà qu'il y en a un autre qui vient et qui me dit « Non, ça ne va pas. » Il va falloir s'y remettre. Je n'ai peut-être pas du tout envie. Deuxième origine. La troisième origine, c'est la séquelle de notre orgueil. En effet, celui qui est humble et qui se sait donc imparfait et pécheur ne craint pas de recevoir des remarques pour pouvoir corriger ce qu'il a fait. Mais bien sûr, il est imparfait et pécheur, donc il y aura forcément des choses à ajuster. Ce n'est pas le signe que je n'ai pas le droit de vivre. C'est simplement le signe de la réalité que je suis imparfait et pécheur. Lorsque on reçoit cette grâce de vivre de l'humilité, il y a beaucoup plus de décontraction au moment où l'on reçoit une critique. Donc trois origines. L'expérience, les mauvaises expériences de jugement, notre paresse ou notre orgueil. Et donc celui qui est humble, au contraire, quand il reçoit une critique, va comprendre que c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir quelqu'un capable de nous corriger droitement et efficacement. Je voudrais peut-être en donner quelques exemples dans la vie courante, où nous comprenons que c'est une grâce. C'est votre professeur d'art graphique qui corrige votre perspective, qui vous apprend le sens du contraste. Et du coup, votre dessin, après coup, ressemble à quelque chose. C'est le professeur de musique qui corrige vos harmonies en vous en enseignant les règles. Eh bien, du coup, ce que vous jouez, ce que vous composez, sonne mieux. C'est votre professeur de ski qui corrige votre position pour que vous ne dérapiez plus n'importe comment sur une neige verglacée. Et voilà que, désormais, vous n'avez plus peur de sortir quand la neige est un peu dure. C'est tout simplement celui qui, face à notre traînement de texte, nous apprend à utiliser les tabulations. On n'est plus en train d'appuyer sur la touche barre espace pour essayer d'ajuster les lignes. Une critique, une bonne définition, une distinction, c'est un jugement sur la réalité. Le jugement, c'est ce qui nous permet de dire merci, c'est un jugement sur la bonté de ce qui a été fait. C'est une grâce d'avoir quelqu'un capable de nous corriger droitement et efficacement. Et du coup, lorsque on reçoit un jugement, j'allais dire, lorsqu'on reçoit en particulier le jugement de Dieu, on apprend de conscience que le regard de Dieu sur nous, c'est un regard qui n'est distordu par aucun orgueil, par aucun égoïsme, par aucun mépris. Quand Dieu juge, c'est tout le contraire d'un mauvais juge. Et regardez Jean-Baptiste qui est envoyé par Dieu pour annoncer ce jugement. Quand les gens viennent confesser leurs péchés, il ne les noie pas dans le Jourdain. C'est-à-dire, après ce que vous avez fait, non, là, vous restez au fond de l'eau. Non, ce n'est pas le but. Il les plonge vraiment dans l'eau pour manifester, c'est vrai. Le fruit du péché, normalement, c'est la mort. Oui, mais il les ressort. Il les ressort et il leur donne d'entrer dans la terre de l'Alliance. La critique que Dieu adresse, le jugement que Dieu porte, a en vue la vie de celui à qui il s'adresse. Il a en vue la vie de celui à qui il s'adresse. Et le regard que Dieu porte sur nous, c'est un regard qui est plein de confiance. Ça arrive parfois quand on est enfant qu'on se demande, mais après la grosse bêtise que j'ai faite, est-ce qu'on peut m'aimer encore ? Moi j'ai ce souvenir, on m'avait dit tu joues pas dans le salon, il y avait un grand vase. Évidemment j'ai joué au ballon dans le salon et à un moment je visais pas du tout dans ce coin-là, mais il y a eu un rebond, le ballon est allé fracasser le vase. Alors, mais bien, hein, c'était pas possible de se dire je vais le replacer comme ça, non. Il y a aucun... Est-ce qu'on peut m'aimer encore après ça ? Parce qu'on m'avait dit tu dois pas faire ça. Et on découvre le regard de nos parents dessus, qui nous disent « Oui, tu as fait une bêtise, je ne suis pas content, je t'avais dit de ne pas le faire. » Mais ça ne remet pas en cause mon amour pour toi, parce que je ne t'aime pas pour ce que tu fais ou que tu produis, je t'aime pour ce qui tu es. Et on découvre alors que notre existence ne dépend pas des compliments ou des critiques, que notre existence, elle dépend d'un don. Et c'est quand on découvre ça, on gagne beaucoup de liberté, beaucoup de paix par rapport à notre existence. Non pas de la désinvolture, mais de la paix par rapport à notre existence. Et ce regard que les parents peuvent poser sur leurs enfants est un écho du regard que Dieu pose sur nous. Nous devrions prendre conscience profondément que le regard que Dieu pose sur nous est un regard qui nous dit « Tu es beau ». Tu es beau, toi que j'ai créé à mon image. Tu es belle, toi que j'ai créé à mon image. Et que ce jugement que Dieu pose sur nous en posant les yeux sur nous, ça ne dépend pas des canons de la beauté de ce monde. Ça ne dépend pas de la position de notre nez, de la couleur de nos cheveux. Ça ne dépend pas de la qualité de notre santé. Que je sois un athlète, que je sois en fauteuil roulant, Dieu pose son regard sur nous et nous dit « Tu es beau, tu es belle de Dieu, tu es beau de Dieu. » Et nous avons du mal à l'entendre. Je vous invite peut-être, si ça peut vous aider, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé et que je tiens régulièrement à réentendre. Les témoignages de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, c'est quelqu'un qui a compris profondément, qui a reçu cette grâce de comprendre profondément la qualité du regard que Dieu pose sur nous. Ce regard qui nous dit « Tu es beau, tu es belle de Dieu, je t'ai créé, je me réjouis de t'avoir créé et je veux passer mon éternité avec toi. » Parce que quand vous avez découvert cela, quand ceci, c'est une certitude pour vous, alors les remarques que l'on vous fait, vous comprenez que ce sont des remarques de vie, ce sont des remarques pour nous faire grandir, ce sont des remarques qui nous permettront d'aller plus loin. Ce dimanche, ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes invités à entrer dans la confiance vis-à-vis du jugement de Dieu, à sortir de la peur que ce jugement n'a pour but que de garder les purs et de virer ceux qui ne sont pas parfaits. Prenons conscience de ce regard de Dieu sur nous. Ce jugement est pour notre vie et notre sanctification. Le jugement de Dieu a pour finalité la vie de celui qui le reçoit. Alors vous allez me dire, mais dans la bouche de Jean-Baptiste, c'est pas si évident. Parce qu'il dit, attention, c'est la colère qui vient. La cognée de la hache est déjà la racine des arbres. Alors est-ce que c'est Jean-Baptiste qui a rien compris ou c'est il y a un double message ? Souvenons-nous que dans l'Écriture, que représente l'expression « la colère de Dieu » ? La colère de Dieu, ça représente la prise en compte du cri de toutes les victimes que l'on n'a pas respectées. Combien de cris dans l'histoire, combien de cris des victimes n'ont pas été vus, entendus ? Eh bien, c'est le moment où Dieu dit « Toutes ces injustices qu'on a passées sous silence ou qu'on a voulu étouffer, moi, le Seigneur, je les entends et je les porte au jour. » Et je les porte au jour parce qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de prise en compte de l'histoire. Vous ne vous réconciliez pas avec quelqu'un qui dit « Je ne comprends pas en quoi je t'ai fait du mal. » Oui, au cœur de la réconciliation, il faut que deux histoires reviennent en communion. C'est quelque chose en fait de très instinctif. Hein. C'est ce qui fait que quand quelqu'un nous bouscule, on a envie de bousculer en retour. Ben pourquoi ? Ben tu m'as fait connaître le fait d'être bousculé, je vais te le faire connaître aussi. Comme ça, tu vas savoir où tu as plongé ma vie. Mais derrière ça, le but, c'est que nos vies sont faites pour être en communion. Le moment de la colère, c'est la prise en compte de l'injustice pour offrir, justement pour offrir un avenir. Cessons de penser aussi que le jugement de Dieu est un peu à l'emporte-pièce. Lorsqu'on nous dit que la paille est brûlée et que le blé est conservé, ne le voyons pas en gros, comme si Dieu allait dire « Toi, ah non, toi tu es de la paille, au feu éternel, toi tu es du bon grain ». Je te conserve. C'est au cœur de chacun d'entre nous que ce discernement doit se faire. Il y a une part de paille, de malice, d'habitude mauvaise en nous qui doit être brûlée, comme il y a une part de bonté en nous, de vérité en nous qui doit grandir, qui doit être préservée, qui doit être mise en avant. Et voilà la promesse de Dieu, justement. Il y a l'occasion maintenant que cette paille en toi soit brûlée, que tu puisses en être délivré, que tu puisses ne plus être étouffé par elle, que le bon grain puisse prendre toute la place. Cessons de penser que le jugement de Dieu est un emporte-pièce. Il vient faire une œuvre de libération et de discernement jusqu'au fond de notre cœur pour que nous puissions aimer comme lui aime. Le fruit du jugement de Dieu, le fruit de la justice, ce sera la paix. On le voyait dans la première lecture, avec cette vision, après la venue du Messie, d'une image paradisiaque, le loup avec l'agneau, le petit enfant qui met la main sur le nid du cobra. Une paix qui est le fruit de la justice. Non pas la paix par l'extermination, le loup est là, l'ours est là, le cobra est là, non pas la paix par l'extermination de ceux qui ont une trace d'impureté, mais par leur purification. Seigneur Dieu, en ce dimanche, libère nos cœurs de l'orgueil qui nous fait fuir ton jugement. Dissipe la peur qui vicie notre mémoire. Le premier fruit digne de notre conversion, c'est notre confiance en ton jugement. C'est notre confiance dans le regard que tu portes sur nous. Nous le croyons, Seigneur. Ton jugement a pour objectif notre vie. Ton jugement a pour objectif de nous rendre participants à ta vie. Seigneur, nous avons confiance en toi. Amen.